Donc, quand je pense à le web, je pense surtout à un espace fortement polarisé. Il me semble un espace dans lequel il y a d'un côté la possibilité d'une énorme liberté, d'un accès immédiat à une énorme inouïe quantité d'informations, de data, et aussi un espace qui permet une créativité, disons, bottom-up, c'est-à-dire pas contrôlée d'institution, pas forcément réglée. Mais de l'autre côté, et il s'agit de l'autre pôle, c'est aussi l'espace, nous le savons, de la surveillance, d'un régime contrôlé, un espace qui promet une liberté de choix qui, en vérité, est une liberté conditionnée par les algorithmes, une liberté qui est prévue, une liberté qui est prédéterminée, une liberté qui est orientée, et donc le choix n'est pas vraiment celui d'un sujet libre. Et il me semble, je ne suis pas un politologue, je ne suis pas un philosophe de la politique, mais il me semble que le web, aujourd'hui, nous encourage à élaborer une conceptualisation, une terminologie qui défie toute terminologie traditionnelle de la philosophie politique, du discours politique et du discours éthique aussi de la tradition occidentale, c'est-à-dire les grandes oppositions entre justement liberté d'un côté, déterminisme de l'autre côté, et opposition entre autonomie et hétéronomie. Il me semble que ces oppositions-là ne marchent plus dans un milieu qui est notre Umwelt, qui est notre milieu ambiance qui nous entoure, dans lequel nous sommes plongés. Nous continuons d'une certaine façon à essayer de comprendre cet espace paradoxal, cet espace intimement polarisé, contradictoire, avec des catégories obsolètes. Et nous avons besoin d'une nouvelle terminologie pour notre ethos et pour notre police. Encore une fois, il me semble que je devrais avoir recours à une image polarisée. C'est évident que on pourrait mentionner centaines de cas dans lesquels le web a offert un espace pour l'exploitation, pour l'accumulation du profit capitaliste dans le sens traditionnel du terme, et même plus sauvage que dans les marchés traditionnels. De l'autre côté, c'est aussi vrai que le web a rendu possible un espace pour pratiquer une économie alternative, même une économie qui, comme économie, s'harmonise avec une écologie, par exemple, ce qui n'est pas tout à fait évident pour ce qui concerne les directions économiques traditionnelles. De mon point de vue, qui est, comme tu sais, celui des études visuelles, je suis beaucoup intéressé à ce que le web permet en termes d'une économie de la créativité, c'est-à-dire toutes les pratiques de intervention souvent anonyme, de recyclage, de braconnage, de bricolage, de parodies, qui constituent un phénomène énorme dans le web pendant les années récentes. Il s'agit de pratiques qui défient notre esthétique. Parce que une esthétique qui traditionnellement était articulée selon une opposition entre une esthétique de la production, c'est-à-dire une esthétique du génie, ceux qui faisaient de l'art, disons, grosso modo, de l'autre côté, une esthétique du goût, et donc une esthétique du public, du spectateur, de la réception. Tandis que dans ces pratiques-là, comme je l'ai évoqué, des bricolages, de recyclage, des parodies, il y a une fusion entre les producteurs et les consommateurs. Il y a un mot anglais qui a été inventé depuis 1980, je pense, par Alvin Toffler, qui est le terme des prosumers, qui fondent ensemble les producers, les producteurs et les consumers, les consommateurs. Et là, je pense qu'on, encore une fois, on a besoin d'une terminologie et d'une conceptualisation nouvelle pour entendre un espace pareil d'économie de la créativité et qui n'est pas seulement une créativité esthétique, qui n'a pas seulement des implications esthétiques, mais comme on le voit avec ce qui est téléchargé sur Vimeo, sur YouTube, on a vraiment aussi un espace de pratique politique. Et ça m'intéresse beaucoup. De la perspective de mes études visuelles, quand je pense au concept désormais célèbre de post-vérité, de post-truth, je pense à un processus qui a été déclenché par l'invention de la photo. Et donc, un processus qui a été inventé dans une période beaucoup précédente à laquelle on se réfère d'habitude quand on parle de post-vérité, mais qui quand même me semble intimement lié au phénomène de la post-vérité. Pourquoi la photographie ? Parce que la photographie est une image qui, si on veut utiliser les termes de Charles Peirce, est en même temps une icône et un indice, c'est-à-dire une image qui ressemble iconiquement dans une manière très forte le modèle auquel l'image se réfère. Il est capable de ressembler au modèle dans une manière plus puissante par rapport à d'autres types d'images, comme un tableau de peinture, par exemple. Et indice, parce qu'on a besoin que quelque chose soit devant l'objectif de la caméra pour obtenir une photo. Et cette nature indicielle est vraie et pour la photo analogique et pour la photo numérique. Et donc, pour cette nature en même temps iconique et indicielle, la photographie est devenue l'image documentaire par excellence. On a l'événement historique, mais l'événement historique est vérifié, est certifié par le fait qu'on en a une image photographique. Et après, on dirait, on en a le vidéo, qui est l'évolution dynamique de l'image statique de la photo. Mais si on demande à une image de certifier la vérité d'un événement historique, on renverse le rapport de longue durée. On pourrait dire, grosso modo, de la tradition qu'on pourrait nommer platonicienne, c'est-à-dire l'image dépend pour son être et sa vérité, donc d'un point de vue ontologique et gnoséologique, dépend du modèle. Mais si je dis, après l'invention de la photographie, que le modèle, l'événement, le fait, pour être cru vrai, dépend de l'image qui le montre, je renverse les termes. Donc, le fait devient une fonction de l'image. Qu'est-ce que tout ça a à faire avec la post-vérité? Je pense d'une manière très, très cruciale parce que l'image photographique est l'image documentaire par excellence, mais l'image photographique a toujours été manipulable, a toujours été modifiable, a toujours été retouchable. Bien avant l'invention de Photoshop, bien avant que le verbe « to Photoshop » soit entré dans le vocabulaire anglophone pour désigner la pratique de la post-production, de la post-production. Si tu penses aux guerres, la guerre de Crimée, la guerre civile américaine, les premières guerres qui ont été enregistrées en photo, on sait que les photos qui sont disponibles ont été presque toutes retouchées, toutes manipulées. Et donc, il y a encore une fois ce paradoxe d'une image qui est documentaire d'un côté, on lui demande d'assurer la vérité d'un événement historique, et de l'autre côté, on sait qu'il s'agit d'une image qui est constitutivement manipulable. Je pense que avec la photo et avec ce qui est venu après la photo, c'est-à-dire le cinéma et après le vidéo. Et dans les mondes analogiques et dans les mondes numériques, on est encore dans le sillage de ces développements et de ces renversements du rapport entre réalité et représentation iconique de la réalité. Et pour moi, post-vérité, quand j'y pense, a à voir avec ce paradoxe des, on pourrait l'appeler bien, documentalité iconique. J'ai toujours du mal à m'orienter dans les discussions sur la démocratie parce que je pense que dans notre discours politique depuis plusieurs siècles désormais, on rattache au concept et au terme de démocratie automatiquement une évaluation positive. Il ne s'agit pas seulement d'un terme descriptif d'un régime politique, mais il s'agit d'un terme qui implique une valeur. C'est mieux être dans un régime démocratique que d'être dans un régime de la monarchie ou d'un régime totalitaire. Mais les faits récents, je pense à la Turquie par exemple avec Erdogan, je pense à l'Hongrie avec Orban, ont rendu nécessaire l'introduction des termes qui semblent nuancer dans une manière différente la notion de implicitement et automatiquement positive des démocraties. On parle d'une démocratie illibérale, ce qui semble une contradiction en termes. On parle d'un autoritarisme électoral, ce qui semble encore une fois une contradiction en termes. Et donc, je me demande, la Corée du Nord, la définition formelle est République populaire démocratique de Corée. Et donc, je me demande si, encore une fois, je ne suis pas un politologue et ni un philosophe de la politique. Mais je me demande si aussi si on pense à la promesse d'une démocratie immédiate et directe à travers le web, les votes à travers le web, une démocratie qui semble réintroduire des formes directes d'activités démocratiques comme celle de l'agora de la Grèce ancienne. mais reformulée dans un sens numérique, justement sur le web. Je me demande si aujourd'hui on n'aurait pas besoin d'abandonner ce terme qui semble totalement obsolète d'un certain point de vue, parce qu'il n'est plus capable de décrire des phénomènes de la polis dans lesquels nous sommes en train de vivre.